sommaire en moins de 120 secondes de ce 5 à 7 du mardi 22 septembre. 18h20 du Grand Moudre, l'université doit-elle sélectionner davantage? La rentrée universitaire est chargée puisqu'il y a 65 000 étudiants supplémentaires cette année. Un choix parfois par défaut puisque certains voient l'université faute d'avoir été admis par exemple en BTS ou en IUT. Alors faut-il remettre en cause le principe du libre accès et adopter un système plus sélectif? Ce sera un débat avec William Martinet de l'UNEF, Bruno Cyr qui préside l'université Toulouse 1, Cécile Bargue, prof à Nanterre, et Christian Lage du SNETA-FO qui est le principal syndicat de l'enseignement professionnel. 18h, le journal de la rédaction présenté par Tara Schlegel qui évoquera cette nouvelle réunion des 28 ministres de l'Intérieur ce mardi à Bruxelles sur la question des migrants. 17h55, les carnets de l'économie de Vincent Lemaire avec Paul Jorion cette semaine. Keynes est-il un économiste modèle? C'est la question qu'il lui pose aujourd'hui et tout de suite sur les docks. Irène Malianenko, je vais le plus vite possible.
Bonjour Hervé Gardette. Il existe des îles privées comme l'île de Cerques, qui porte aussi le nom de seigneurie. Il existe aussi aux États-Unis des villes privées organisées comme une copropriété sans droit de vote pour les élections locales. Et en France existe un village privé de 600 hectares, propriété d'un seul homme, Charles Piot, dont le fils Claude Giroux a hérité.
Il y a aussi un maire à Pennes-le-Sec, Antoine Colangelo.
Oui Hervé, il est difficile de ne pas indiquer à nos auditeurs cet article du Figaro à son sujet. Je cite « Les gendarmes de Cray qui avaient ouvert une enquête pour disparition inquiétante ont finalement localisé l'édile. Sain et sauf, le quinquagénaire se trouve en Italie où il passait des vacances avec sa femme. Seulement, ces dernières ont mal tourné. » Antoine Colangelo séjourne actuellement derrière les barreaux après avoir été arrêté fin juin pour une note d'hôtel impayée il y a plusieurs années. Mais il est l'heure pour nous d'entendre à quoi ressemble Pennes-le-Sec.
La vie est légère ici. La première fois quand je suis arrivé ici, j'ai senti la montagne. Bon, on venait des Cévennes, alors c'était plus lourd, les maisons, c'est... avec leur toit en lauze et tout, c'était du granit, quoi. Ici, les rochers sont plus légers, je sais pas, il y avait un truc léger. Et je le ressens toujours, la vie est belle. La vie est belle ici, à Pennes-le-Sec.
Pennes-le-Sec, histoire d'un village privé. Par Lénora Krief et François Test.
On a le soleil du matin, 5-6 heures du mat, jusqu'à... à 10 heures au coucher de soleil, quoi, c'est quand même extraordinaire, même l'hiver, en montagne, souvent un peu enquiché. Non, c'est sûr que c'est pas comme des autres villages, non. Bah, c'est Pennes-le-Sec, quoi. Un village comme les autres, mais pas comme les autres. Je sais pas.
Perché à 800 mètres d'altitude dans la vallée de la Roanne, Pennes-le-Sec s'étale sur le flanc très pentu d'une arête rocheuse. À moitié catholique et protestante, la communauté comptait une centaine d'habitants au début du 19e siècle et dépérit progressivement sous le regard impuissant de ses derniers habitants, moins nombreux que les doigts de la main après la guerre. En 1946, un événement fera renaître de ses cendres ce petit village drômois. Un chef d'entreprise grenoblois, Monsieur Charles Piot, se lance dans un projet faramineux, celui d'entreprendre la reconstruction complète de ce village. Parcelle par parcelle, il acquiert les terres, rouvre l'école, restaure l'auberge, le temple protestant, construit une grande salle des fêtes, fait élever une chapelle catholique. Bout par bout, il achète ce village qui deviendra, en 1951, une commune à part entière. Charles Piot devient ainsi le propriétaire d'un village privé de 600 hectares. Et à sa disparition, c'est son fils, M. Claude Giroux, qui en héritera. La route qui grimpe de la vallée de la Roanne au village, c'est aussi son père qui l'a construite. Longue et sinueuse, celui qui s'aventure dans ce chemin peut difficilement imaginer qu'une vie existe encore aujourd'hui en haut de cette montagne. À l'entrée de Pennes-le-Sec, la statue du buste de Charles Piot et son air goguenard vous rappellent sa persévérance avec ce titre gravé dans le marbre, le bienfaiteur de la commune.
Monsieur Giroux, vous avez hérité de la propriété de Pelles-le-Sec, donc un village que votre père, monsieur Charles Piot, a entièrement construit dans les années 1950, après la guerre. Comment votre père a-t-il eu ce projet fou et démesuré même de construire un village dans ces hauteurs?
Je crois qu'il faut se resituer dans l'histoire. Lorsque mon père a eu cette idée, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où l'objectif dans l'ensemble du pays était la reconstruction. Et à ce moment-là, plusieurs particuliers, professeurs de médecine, industriels ou simples particuliers, ont souhaité reconstruire des villages. Et ça a été l'ambition donc de mon père, qui a choisi ce beau lieu de la Porte de Provence, au lieu des guerres de religion où les protestants se réfugiaient, pour faire revivre un village où la population avait disparu et où les ruines étaient plus nombreuses que les bâtiments existants. Et il fallait absolument tout reconstruire, le bâti, les accès, apporter l'eau. C'était une opération considérable.
Et pourquoi Pelles-le-Sec? Est-ce que c'était une région qu'il affectionnait particulièrement?
Moi, je crois que ses attaches religieuses l'ont entraîné à venir dans ce secteur des portes de Provence où les protestants s'étaient réfugiés pendant les guerres de religion. Lorsque vous êtes dans notre territoire, vous avez très peu de cimetières, puisque les familles sont enterrées dans leur domaine, dans leur propriété. C'est un autre mode de vie.
À l'époque, Pelles-le-Sec était habité par des Grenoblois que votre père était allé chercher dans sa ville natale, puisque Grenoble était sa ville d'origine, et il les salariait. Qui sont aujourd'hui les habitants de Pelles-le-Sec?
Aujourd'hui, l'organisation du territoire, l'organisation des activités de la population ont changé. Les exploitants agricoles sont fermiers, comme beaucoup d'exploitants agricoles en France. Les aubergistes gèrent leurs auberges. Les chasseurs s'organisent pour la chasse l'hiver, pour chasser le sanglier et d'autres bêtes.
Qu'est-ce que vous voulez, un café?
Si je prends une boisson chaude, je prendrais plus une tisane.
Oui,
un
dessert,
moi.
Quand même. Une tisane.
Est-ce que ça a été?
Oui.
Bon, bah, j'ai entendu une tisane. Je vous amène la bonne magique. Vous voulez un petit café?
Décaféiné, vous avez? Oui.
À côté de l'endroit où, va avoir, où tu vas mettre la
sucre. Tu le mets? En
non,
face.
Juste en face.
Ouais, à la place de l'assiette, en fait.
Ah bon?
Ouais.
C'est ce que j'ai fait, mais tout à coup, je me suis dit, mais... Parce que quand tu amènes les assiettes, après, voilà.
Non, mais c'est comme ça.
Ok, ouais. Ça marche.
Donc, si j'ai bien compris, vous êtes la chef cuisinière de l'auberge.
Voilà, c'est ça. Donc, je suis toute seule en cuisine. Je m'appelle Pauline.
Et vous êtes venue, donc, avec Johan. Vous tenez tous les deux cette auberge domaniale?
C'est ça, on est tous les deux, on gère les gîtes, la cuisine, le mini-camping et les chambres d'hôtes.
Et vous êtes arrivé il y a combien de temps à Pelles-le-Sec?
Donc là, on entame la 5e saison.
Et alors, qu'est-ce que vous concoctez pour ce soir?
Alors, en entrée, vous aurez un gâteau de foie blond, on appelle ça gâteau de foie de volaille, avec une émulsion à l'oignon. Et ensuite, c'est donc la cuisine de mamie. Ensuite, c'est du navarin de veau avec des petits légumes, des carottes fanes, des haricots verts frais, enfin tout est frais, des petits pois puisque c'est l'époque.
C'est vrai.
Voilà. Et des petites pommes de terre nouvelles.
Ce soir, vous avez l'honneur de recevoir le propriétaire du village, monsieur Claude Giroux. Il vient pas souvent, monsieur Claude Giroux?
Oh, il vient régulièrement. Bon, ça dépend après des périodes électorales, mais voilà, en général, il vient tous les 2-3 mois, selon son calendrier, quoi, ça dépend.
Est-ce que ça vous rajoute une pression supplémentaire, le fait qu'il soit là ce soir, par exemple, par rapport au redîner, au repas?
Non, absolument pas. Vraiment, c'est juste le propriétaire, quoi, finalement. Donc, voilà, on a du respect, on a une bonne manière de travailler ensemble. Quand on a besoin de quelque chose, de rénover des choses, il le fait. Mais sinon, il n'y a pas de rapport de force, quoi. On paye notre loyer et puis voilà, ça ne change rien.
Au début, oui.
Au début, oui.
Au début, oui. J'avoue. Ah, il y a Claude qui arrive.
Parce que c'est quand même son auberge.
Non, enfin, nous, on estime qu'on est chez nous. C'est comme quand on est en location d'un appartement, finalement. Personne ne peut venir chez nous utiliser notre lit. Ou, enfin, quand on loue, voilà, on est chez nous. Moi, on s'est vraiment approprié les lieux, quoi. Donc, on y met notre cœur, on y met notre temps, beaucoup. Donc, voilà.
Là, on est plein sud, donc en face de nous, on a la grande salle des fêtes. Sur notre droite, on a l'auberge domaniale.
L'auberge de Johan.
De Johan et Pauline, bien sûr. Et en face, nous avons le mini camping. Sur votre gauche, nous avons la ferme avec Mégaël et Peter. Donc une ferme avec des chèvres, très bon fromage de chèvre. Et au centre du village, nous avons donc la statue commémorative de Monsieur Charles Piot, qui est à l'entrée du village, notre bienfaiteur du village.
On ne peut pas le louper quand on arrive, hein. On ne peut pas louper cette statue, hein,
non,
quand on arrive ici.
Non, parce que c'est quand même grâce à lui qu'il y a encore un village. Sinon, il n'y aurait pas de village. Un peu plus à gauche, nous avons donc le temple.
Alors juste à côté du temple, il y a le monument aux morts.
Le monument aux morts de la Première Guerre, avec deux personnes donc, qui habitaient le village et qui sont décédées lors de la Première Guerre mondiale. Et à côté du temple, nous avons le petit cimetière où est enterrée la mère de Claude Giroux. Quand nous remontons, nous avons la chapelle. Et quand nous remontons encore, nous avons cinq chalets qui appartiennent au domanial également.
Et juste derrière nous, la mairie où vous travaillez.
Ah oui.
Une grande mairie.
Très grande mairie. Ouais.
Qui était l'ancienne école de Pelnesec.
Qui était l'ancienne école de Pelnesec, voilà, exactement.
Tout ce qu'on vient de décrire, c'est M. Charles Piot qui l'a construit. Donc il a quand même construit
une
grande partie des bâtiments qu'on trouve ici à Pelnesec.
Une grande partie, oui.
Chloé, on vous retrouve chez vous à Vercheny, dans le pays d'Iwa. Vous avez habité pendant plus de 3 ans à Pelnesec et vous avez décidé d'en partir l'hiver dernier. Quels souvenirs vous en gardez aujourd'hui ?
Une belle aventure, on va dire, qui a démarré après quelques années dans le sud, près d'Avignon. Et quand j'ai découvert cet endroit avec mon conjoint... ça a été une belle surprise.
Et qu'est-ce qui vous a amené à l'époque, vous et votre compagnon, en haut de cette montagne dans la vallée de la Roanne ?
Un gros besoin de retour au vert.
Vous avez trouvé l'annonce de cette maison à Pelnesec sur Internet. Qu'est-ce qui était inscrit sur cette annonce ?
Maison de 200 mètres carrés avec 1500 mètres carrés de terrain. Maison neuve. On arrivait d'un appartement de 70 mètres carrés, donc automatiquement, on s'est dit, c'est quand même un peu sympa, quoi.
Quel était le montant du loyer ?
Alors, on était à 715 euros par mois. Voilà.
Et l'offre vous semblait intéressante, hein ?
Bah oui, parce que nous, on payait 730 euros pour 70 mètres carrés dans un village. On savait qu'on passait sur Avignon, donc on s'est dit, il n'y a pas de raison que ça passe pas sur... Sauf que même les petits jobs, les petits boulots, c'est de suite très compliqué à Pelnesec, quoi. Donc là, ça a été... Au bout d'un an, on a compris que ça allait être compliqué. Puis après, on s'est dit, bon, on va finir par y arriver. Et puis en fait, non, c'est pas possible de travailler là-haut, quoi. Ou alors, il faut être artiste libre et puis vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce qui n'est pas trop mon cas. Et donc voilà. Donc au bout de 2 ans, moi, ça a commencé un peu à me chatouiller. D'être maman au foyer, à Pelnesec, ça devenait compliqué pour moi. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai monté après un petit commerce dans la vallée, à Saillant.
Est-ce que vous saviez à ce moment-là que le propriétaire de votre logement était également propriétaire de la quasi-totalité du village ?
Bien en sachant, mais sans connaître l'ambiance, sans connaître les tenants et les aboutissants, sans connaître tout ça. On est arrivé, moi j'ai regardé vite fait sur Internet et j'ai vu qu'en effet, c'était le seul et unique propriétaire en France d'une seule commune, quoi. Donc du coup, ça nous a un peu intrigués, mais on s'est dit, bon, c'est lui qui nous a fait faire la visite. On s'est dit, bon, ça a l'air... c'est particulier, mais bon, on va faire comme pour le reste, quoi. Puis en fait, non, ça, c'est quelque chose qui est là, qui est latent, quoi, de toute façon.
Petite réunion informelle entre le propriétaire de Pennes-le-Sec, Claude Giroux, et le maire de la commune, Antoine Colangelo.
J'avais l'idée pour créer une animation supplémentaire au village faire réaliser un mini-golf. Mais il est vrai que le village tient avec trois points d'équilibre. La ferme, avec la laiterie et les chèvres. Le tourisme et l'hiver, la chasse. Donc le mini-golf serait plus tourné vers l'activité touristique. Mais il faut tenir compte de tous les équilibres dont je viens de parler, et notamment le fait que le mini-golf va prendre du terrain à l'exploitation agricole et qu'il faut vraiment qu'on se rapproche de l'exploitant pour pas lui créer des difficultés.
Exactement. Et de toute façon, le mini-golf serait le bienvenu parce que ça sera un complément, en fin de compte, avec le jardin et botanique, le verger et botanique et l'alambic, en fin de compte. Donc ça ferait un plus. Et surtout, mais l'été, avec l'ouverture de la piscine, ça fera un bon complément pour maintenir les gens au village à cette période, en fin de compte. Ouais.
Moi, où est-ce que vous en êtes au niveau de l'alambic?
Au niveau de l'alambic, qui va être en service dans les 15 vers le 15 juin, en fin de compte.
Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire avec l'alambic?
En fin de compte, comme il y a un responsable et comme il y a une grande demande dans la région pour distiller des petites mais quantités, les gens sont susceptibles de venir avec mes récoltes et la distiller sur place, en fin de compte. Parce que c'est très compliqué de trouver des alambics de cette taille-là, en fin de compte.
Je crois qu'il faut insister sur le fait qu'ils ne viennent pas avec leur récolte pour faire de la gnôle, mais qu'ils viennent pour faire des huiles essentielles. Voilà. Parce que ceux qui peuvent écouter doivent dire, le maire de Pennes-le-Sec va se mettre à faire de la gnôle, et vous savez que les autorisations n'ont pas été données par le Parlement.
Exactement, oui. Ouais, c'est que pour les huiles essentielles. Ouais.
Je m'appelle Johan, je suis l'aubergiste du petit village de Pennes-le-Sec depuis 5 ans bientôt. Je suis arrivé ici avec ma femme et mes deux petites filles à l'époque. Et entre-temps, nous avons eu un petit bébé là, qui est arrivé depuis le mois de décembre dernier.
Combien d'habitants ?
26 habitants. 26 habitants, et je me suis même amusé ce matin à faire la moyenne d'âge. Et nous sommes à peu près à 27 ans. C'est sympa ?
Très jeune, donc.
Oui. Mais ça a augmenté parce qu'on a pris un couple de vieux qui sont là juste de passage parce qu'ils cherchent une maison. Ils ont tous les deux 65 balais. Donc à eux deux, ils font 130 ans et ils nous ont cassé le truc, tu sais.
On a pris, c'est-à-dire ?
Parce que le village tout entier participe systématiquement, en fait, à... C'est pas nous qui décidons, mais...
C'est qui décide ?
Ah bah c'est le propriétaire, donc c'est Claude Giroux. Comme il est assez loin d'ici, en fait, il nous demande si... c'est souvent moi qui ai les clés, pour dire la vérité. Et donc, il me demande mon avis. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est des gens bien ou pas ?
C'est par une annonce internet, alors que vous avez une connaissance de cette auberge à louer.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
On était à Marrakech. Ça faisait 5 ans que nous étions là-bas et très moi personnellement, j'avais envie de revoir les saisons. J'avais envie d'aller aux champignons, j'avais envie de pouvoir aller aux châtaignes, j'avais envie de pouvoir ramasser des fraises dans les bois, j'avais envie de retrouver quelque chose que j'avais perdu depuis. Ces saisons, ces 4 saisons qui passaient, ça me manquait.
Dans ces régions mais reculées, on ne vient pas sur un coup de tête. Il faut que ce soit mais réfléchi. Donc, c'est pour ça que les habitants du village se concertent un petit peu pour pas mais choisir, mais pour aiguiller les nouveaux locataires.
Voilà. Et c'est pour moi l'occasion de vous dire, monsieur le maire, que Jacques, finalement, prend pas le logement près de la piscine. Après réflexion, il a préféré retourner dans sa famille, ce qui fait qu'on verra pour trouver des nouveaux locataires dans ce logement.
Oui.
C'est important que chaque habitant de Pelles-le-Sec ait une compétence à apporter, un savoir-faire à apporter à la ville.
Oui, alors il est important que chacun puisse apporter sa pierre à l'ensemble avec une compétence particulière, d'une part parce que cela le motive, il est intéressé, deuxièmement parce que localement, vu l'importance du village, on a beaucoup de difficultés à prendre en charge des personnes qui viendraient s'installer au village si elles ne sont pas en quelque sorte un peu actives.
Tous les jours les chèvres ?
Pas tous les jours.
Et là, vous les laissez combien de temps dehors, comme ça ?
Normalement, on les amène en pâture. On fait des parcours avec eux, surtout au printemps, pour protéger les prés.
Vous êtes
sur plusieurs endroits, oui. Ouais, on ne peut pas le cacher, l'accent.
Et qu'est-ce qui vous a amené ici ?
Un hasard. Et un amour. On était dans les Cévennes avant. Et puis voilà, on cherchait une ferme. Et on se promenait dans le coin. Ouais, c'est un vrai hasard.
Et le système de ce village privé, il vous a pas surpris ?
C'est comme ça. Il y a un proprio, voilà. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, comme toujours. Mais je savais que ça existait en France, mais sûrement aussi ailleurs. C'est rien de neuf, ça. À l'époque c'était comme ça, il y avait des seigneurs, et puis voilà. Et là, il y a toujours... Monsieur Chirou est très gentil avec nous, puis voilà, ça... On va suivre les chèvres.
C'est un village protestant dont les premières origines connues, en tout cas, se remontent au XIe siècle, qui a eu plusieurs noms. Le dernier en date, c'était Pennes-sur-Barnave. Barnave, c'est un village qui est de l'autre côté de la vallée, là-bas, et c'est devenu Pennes-le-Sec au début du XIXe siècle, pour la simple et bonne raison qu'en fait, la source Saint-Michel, c'est Tari. Et donc, c'est devenu Pennes-le-Sec. Pennes, dans le coin ici, ça veut dire la crête rocheuse. Donc, la crête rocheuse sèche. Les jeunes s'en allaient et personne ne voulait s'installer dans un village où il n'y avait pas d'eau. Tout ça nous amène en 1945, juste après guerre. Monsieur Piau est passé par là. Gros industriel, s'il en est, de Grenoble, qui faisait des pneus. Piau pneus. Est tombé amoureux de la région et aussi d'une... il l'appelait sa préférée. Il avait sa dame officielle et puis sa préférée.
Madame Giroux.
Il était très riche à l'époque et il s'est dit, c'est pas possible, ce village mérite d'être pris. C'est une vue superbe sur une vallée génialissime. Et c'est une vallée qui a bien évolué parce qu'il faut se rendre compte qu'en 1945... C'était une vallée qui était complètement déboisée. C'était une vallée qui était sèche. Quand Piau est arrivé, c'était sec.
Ça, c'est Piau, donc.
Alors ça, c'est l'auberge du domanial, donc.
Oui, donc là, c'est vraiment à l'époque où le village était en ruine.
Oui, complètement en ruine.
Il n'y avait rien, rien.
Non, non.
Il y avait, en fait, il n'y avait aucun arbre, c'était complètement à sec.
Il n'y avait aucun arbre parce que les gens, ils ont vécu en complète autarcie, c'est ça. Et donc, ils coupaient tous les arbres pour se chauffer et pour faire même la cuisine. Il y a une replantation de sapins qui a été faite.
Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, cet homme-là? Des fois, tu te dis que c'était juste un grand fou. D'autres fois, tu te dis que c'était juste un bienfaiteur absolu. Je sais pas.
Monsieur Jean-Baptiste Grison, vous êtes docteur en géographie et vous avez étudié les petites communes de France. Quel regard portez-vous sur le village de Pelles-le-Sec ?
Pelles-le-Sec est un village clairement atypique, déjà parce que c'est une commune très peu peuplée, mais aussi parce que c'est une commune qui aujourd'hui n'a qu'un seul propriétaire principal. En même temps, ça reste une commune comme les autres sur un plan législatif, sur un plan administratif, c'est-à-dire qu'il y a un conseil municipal qui a la même voix que tous les autres conseils municipaux. Il y a un maire, il y a l'appartenance de cette commune à une intercommunalité.
Comment le village de Pelles-le-Sec a-t-il pu devenir une commune en 1951 ? Qu'est-ce qui fait véritablement commune ?
Le village de Pelles-le-Sec est vraiment devenu une commune dans la mesure où quelque part une vie s'est réinstallée dans le village. Mais Pelles-le-Sec était déjà une commune sur un plan purement formel, territorial et administratif, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des limites communales, il y avait déjà un statut municipal, mais qui jusque-là était ce qu'on peut appeler une coquille vide, c'est-à-dire une commune sans réelle vie locale.
Jean-Baptiste Grison, à votre avis, est-ce que Monsieur Charles Piot avait un intérêt à faire de Pelles-le-Sec une commune, ou bien est-ce que c'était simplement par coup de foudre, comme certains ont pu le raconter ou le romancer ?
Il y a bien dû y avoir un coup de foudre au départ. Après, effectivement, dans le fait d'investir la fonction communale, Charles Piot avait aussi l'intérêt fiscal qu'il a trouvé à domicilier sa société au village de Pelles-le-Sec, dans laquelle, en tant que maire, il a pu fixer des niveaux de taxation, de fiscalité plus faibles que là où il était installé avant. Et puis, ça lui a aussi donné un potentiel en termes de fiscalité, de finances publiques, hein, puisqu'il a pu utiliser en plus de ses fonds privés les ressources qui étaient celles d'une collectivité territoriale. Donc il y avait cet intérêt-là de concentrer les fonctions, en fait, hein, et d'associer à la fois la fonction politique et la fonction économique pour le même acteur qu'il était.
Je m'appelle Daniel Fernandez, je suis maire de Saint-Nazaire-le-Désert, habitant depuis 1980.
Tout proche de Saint-Nazaire, à une vingtaine de kilomètres, se trouve le village de Pelles-le-Sec. Quel est votre regard sur ce village ?
C'est un village un petit peu particulier, qui ne ressemble pas tout à fait au nôtre, dans la mesure où chez nous, nous avons des habitants qui sont nés là, qui ont toujours vécu là. Et puis, même si on a des nouvelles arrivants, il faut savoir que la base, hein, c'est quand même des gens qui sont nés là et qui ont une histoire derrière eux. Pelles-le-Sec, c'est un village reconstruit et qui voit passer beaucoup de monde. Et les gens passent les uns derrière les autres et tout. Et on n'a pas beaucoup d'histoire, on n'a pas beaucoup, si elle existe l'histoire, mais pas à travers de ceux qui sont aujourd'hui, quoi, parce que ce qui arrive et qui repartent, voilà.
À Alors là, monsieur Giroud, on passe devant la salle des fêtes.
Alors là, on passe devant la salle des fêtes qui avait été réalisée par mon père, qui est un lieu, comme toutes les salles des fêtes, de rassemblement pour diverses manifestations. L'été, début juillet, on a des formations théâtre par des responsables parisiens qui font des formations théâtre ici. Et puis, toute activité, parfois des communions, parfois des mariages, parfois des réunions d'associations.
Bon, on peut dire que c'est une grande et belle salle de fête que votre père a construit.
Alors, il avait construit cette salle des fêtes parce qu'une fois par an, il invitait toutes les personnes qu'il connaissait, amicalement ou professionnellement, à l'occasion de la fête de la Sainte-Anne. Et pour lui, c'était un événement annuel où il mettait en valeur, bien sûr, Pennes-le-Sec, mais où il était content de recevoir, parce qu'il avait un petit peu ça dans l'esprit, recevoir et faire plaisir aux gens.
Là, on se trouve devant le temple protestant.
Alors, le temple protestant, lorsque mon père est arrivé au pays, c'était devenu un tas de ruines. Et ça a été sa première priorité, refaire mettre en état le temple, qui aujourd'hui est bien sympathique. Et à côté, vous avez le cimetière.
Et c'est votre mère qui est enterrée ici ?
Oui, ma petite maman est enterrée ici. Elle est décédée le 22 décembre 1999. Elle a été maire de la commune où elle s'en est vraiment beaucoup occupée.
Votre mère semblait assez intransigeante, même, je dirais, sur la bonne gestion du village.
Oui, elle a toujours été ferme dans ses décisions pour agir au niveau du village. Mais c'est toujours nécessaire lorsqu'on a des personnes qui travaillent pour une collectivité ou pour une entreprise d'être ferme et de donner des ordres qui sont adéquats et qui sont bien perçus parce qu'on les gens les comprennent. Et les gens les comprenaient très bien puisque après avoir travaillé le soir, ils se retrouvaient bien souvent à sa table personnelle pour partager la soupe et le repas du soir.
On sort pas, les filles.
Ce sont toutes vos chèvres.
Ouais, on en a une quarantaine.
Quarantaine. Vous les avez emmenés jusqu'ici, jusqu'en haut de cette montagne?
Non. On a repris le troupeau qui était déjà en place. Il y avait déjà deux agriculteurs qui ont cessé l'activité. Donc on a repris l'activité telle qu'elle était, en fait.
Donc la chevrette, là, elle passe derrière la barrière. En fait, elle ne sert pas à grand-chose, votre barrière.
Non, mais on a fait un système ce matin, bricolage. C'est des enfants, quoi.
Et vous la louez combien, cette ferme?
Annuellement, ça ramène à combien, je sais pas. On a le loyer pour la maison et après on a le fermage. Donc le loyer pour la maison, c'est à peu près 350 € par mois. Et puis le fermage, on doit avoir, 1 500 € par an pour les terres. Et les bâtiments agricoles, bien sûr. Hein.
Est-ce que pour vous, c'était une belle opportunité?
Bah oui, c'était une super opportunité parce que du coup, un endroit comme ça, à moins de s'endetter jusqu'à la fin de ses jours, voire même d'endetter ses enfants, je crois pas qu'on pourrait se le payer. Donc,
Pour vous, c'est pas du tout un souci de pas pouvoir accéder à la propriété dans ce village?
Bah non, parce que de toute façon, vu dans des coins comme ça, c'est plus pris d'assaut par des résidences secondaires qu'autre chose. Et de toute façon, la propriété, elle est pas accessible. Donc au moins, là, ça permet quand même... d'avoir accès à un projet, quoi, quelque chose, puis de céder la place après, quand on aura fait notre temps, on cède la place et puis voilà.
Ça, c'est pour vous, c'est une vision à court terme, court, moyen terme?
Nous, on a un bail de 25 ans, donc après, on peut aller jusqu'à la retraite et puis après, au moins, ça permet qu'on finira pas nos vieux jours ici, mais au moins, ça continuera une activité agricole, quoi.
À partir du moment où il y a un propriétaire dans le village, si on a des projets, est-ce qu'on doit le consulter ou non? Est-ce que
ça se fait naturellement? Non, ça change pas la situation, que ça soit un propriétaire de tout le village ou même nous, c'est plus simple quelque part, parce que dans beaucoup de situations, par exemple, le propriétaire de la ferme, souvent, c'est la personne qui a exploité la ferme, qui reste souvent à côté, du coup, qui garde un œil sur ce que les gens font, hop, qui a du mal à lâcher, ou des choses comme ça. Ça fait des situations pas simples, que nous, on est très libre, en fait. Ben voilà, comme tout locataire, hein, on fait comme on veut, dans la mesure où on respecte ce qu'on loue, quoi.
Comment est-ce qu'on peut le définir, ce village ?
Comme Pierre Bonte me disait, le village de la Belle au bois dormant. Parce que quand on y habite, ou seulement quand on y passe mais 2 ou 3 jours, on se laisse emporter par un farniente, et la vue est tellement magnifique, on se sent à l'abri dans ce village.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un village normal ?
Non, c'est pas un village mais normal. Parce qu'il n'y a pas de petits propriétaires bébétériens qui sont là depuis de génération en génération. Et c'est vrai que ça nous manque pour un historique du village. Les gens ici en moyenne restent entre 3 et 5 ans. C'est un village
de passage
et un village étape. Souvent dans la vie des personnes, c'est un village étape.
Oh, il est sympa, puis il est entreprenant. Mmh. Souvent dans les petits villages ruraux, on a du mal à trouver des élus entreprenants. Parce que tout est tellement compliqué pour gérer les affaires publiques.
Mais c'est vrai qu'il y a... Bah, c'est important que vous veniez de temps en temps les voir. Enfin, ça fait partie aussi de... Entre guillemets, enfin, ça participe aussi, j'imagine... au bon déroulement des choses aussi, hein, que vous soyez là quand même de temps en temps, je suppose.
Comme je le disais tout à l'heure, chacun amène sa pierre, moi je l'amène à ma manière.
J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Claude Giroux lors d'un de ses passages au village. C'est vraiment l'événement lorsqu'il vient à Pelnesec.
Disons qu'il ne vient pas souvent. Donc, obligatoirement, quand il vient... On a souvent une liste devant les yeux de choses qu'il faut qu'on discute avec lui, qu'on voit si c'est possible ou pas. Voilà, puis c'est vrai qu'il s'intéresse à sa commune. Donc automatiquement, dès qu'il y a un conseil municipal, bah voilà, on a voulu aussi plusieurs fois avoir son avis au niveau juridique, au niveau de plein de choses. C'est quelqu'un qui s'investit auprès de ses habitants, même s'il y est que trop peu, je pense. Il s'investit.
Oh, ça va, les yaourts, il n'y a pas trop de goût, goût des chèvres, ça va, il est doux, hein.
Oh là,
mais en fait, il est trop,
moi,
il est trop froid. Il
faut laisser
tempérer un peu.
Ah, moi, j'aime quand c'est froid. J'aime ce qui est frais en général.
Vous restez un peu ou...
Non, on repart en 11
heures. Ah oui. Je ne vais vous pas donner une bouteille ou vous amener à Aix-les-Bains. Oui.
Vous croyez?
Oui.
Allez, merci.
Regarde s'il y a encore une bouteille de yogourt.
Ou à la
from. À la from, mais là, je prends un d'un autre, c'est le même.
À quoi ressemble le quotidien à Pelnesec ?
On travaille beaucoup en été et l'hiver, on se met en tas et on hiberne.
On est à 850 mètres d'altitude, on a de la neige plusieurs fois par hiver. Donc ça veut dire être bien équipé au niveau d'une voiture, ça veut dire des frais de pneus qu'on n'aurait jamais cru que ça existait. Ben voilà, on passe plusieurs trains de pneus par an à Pelnesec, hein, parce que ça use. Ça use, voilà, il faut une bonne bagnole, il faut... Il faut être en forme aussi, il ne faut pas être malade toutes les 5 minutes, parce qu'autrement, c'est vite compliqué. Enfin voilà, il y a tout un quotidien, surtout avec des enfants, qui n'est pas évident. Après, c'est loin d'être invivable, attention, je précise bien. Alors vous, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes secrétaire de la mairie de Pelnesec depuis un moment.
Oui, depuis 90. Moi, je travaillais déjà à la mairie de Saint-Nazaire-le-Désert depuis 79. Donc, M. Durand, que je connaissais, était venu voir si ça m'intéressait.
Donc, si on récapitule, combien de maires se sont succédés à Pelnesec?
Pour moi, avant, je ne sais pas. Avant, il y a eu M. Vincent qui est resté très longtemps.
Il y a eu le droit de Monsieur Pio.
Voilà, il y a eu le petit Charles aussi, je crois qu'il a été maire. Donc ça, c'était le fils de Monsieur Pio, son fils qui
portait légitimement son
nom. Oui.
Comment dire ça?
Oui, c'était son fils légitime. Et donc après. Il y a eu donc cet héritage donc du fils naturel de Monsieur Pio, donc Maître Giraud. Et bon, ça a quand même pas mal bouleversé la municipalité, évidemment, et la commune s'en est suivie.
Quelle différence vous faites entre le secrétariat d'un village privé et d'une commune normale?
Village privé... La République s'applique aussi à Pelnesec, hein. C'est à peu près pareil, hein. Il y a un maire, moi je travaille avec le maire du village, puisque je suis sa secrétaire. Je suis la secrétaire du maire avant tout.
Qu'est-ce qui appartient à la commune dans ce village?
Alors dans ce village, il appartient à la commune la grande salle des fêtes, que vous avez peut-être pu voir. Il appartient également, bien sûr, ce bâtiment hein, où nous sommes, la piscine, donc voilà, le temple, bien sûr, est sur le domaine communal. On a aussi le petit bâtiment pour le camping, qui est aussi à la commune.
À votre avis, Monsieur Claude Giraud, aujourd'hui, il est bénéficiaire sur sa commune?
Je ne sais pas du tout. Bon, il a 23 maisons et la plupart sont louées. Je ne sais pas du tout par rapport à l'entretien, par rapport à tout ça, s'il est vraiment bénéficiaire ou pas. Je pense quand même que oui.
L'équilibre financier est très très difficile, vous vous en doutez. Il y a beaucoup de travaux d'entretien et les seules ressources sont procurées par les locations de l'exploitation agricole ou d'autres bâtiments, par les ressources touristiques et les ressources de la chasse. Mais l'équilibre financier est très difficile et en tout cas on a du mal à le rendre positif.
Votre position, elle est un peu délicate puisque vous êtes également secrétaire de Saint-Nazaire. Qui a sûrement moins de moyens que Pelnesec. Comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Avant, lorsque il y avait le canton de Luc, c'est vrai que lorsque je vais aux réunions, j'ai souvent des allusions là-dessus. Hein, j'ai souvent et quand il y avait à l'époque de Madame Giraud les réunions cantonales. Et que Mme Giraud demandait bien sûr des subventions, c'est sûr que ça faisait grincer les dents de pas mal d'autres petites communes. Et ça, je pense qu'Antoine, pour en avoir un petit peu parlé des fois, le ressent encore actuellement, hein, toujours. Hein.
Ben, le sac est assez critiqué.
Critiqué, moi, pour les peu de réunions que j'ai fait, voilà, envier, oui,
envier,
c'est sûr,
plutôt.
C'est sûr. Oui, moi je le vois plutôt comme ça.
Daniel Fernandez, maire du village de Saint-Nazaire-le-Désert.
On le sait, tout le monde le sait, que a priori, à Pelnesec, bon, ils n'ont pas de problème de gestion financière, etc. Alors que nous, c'est pas tous les jours, mais c'est toutes les semaines, toutes les quinzaines, tous les mois, on a des problèmes financiers, on doit serrer la ceinture, on doit faire très attention, faire des choix importants, prioritaires. Et bon, pas de jalousie, pas du tout.
Comment se fait-il que Pelnesec ait beaucoup de moyens aujourd'hui?
Ben, je crois qu'il y a toute une histoire, il y a toute une historique là-dessus, et que M. Pio avait fait tellement de travaux, et que vis-à-vis de l'État, l'État était redevable, Monsieur Piau, de tous les investissements qu'il avait faits. J'entends par là, je crois qu'il s'agit de la route. Hein. Eh bien, il a aujourd'hui des retours, enfin pas lui, hein, bien sûr, hein, mais ceux qui sont aujourd'hui les propriétaires et la commune aussi, hein, parce que c'est la commune qui touche les taxes de l'État et les dotations de l'État. Eh ben bon, voilà, il y a un juste retour qui s'est fait, mais qu'on retrouve longtemps après. Bah écoutez, moi je suis pas pour qu'on leur enlève, parce que si on leur enlève, on me le donnera pas. Donc pas forcément pour qu'on leur enlève. Mais tout ce qui rentre dans la vallée de la Roanne, vous savez, va vous dire qu'on est un peu égoïste, mais en fait, on se bat du mois de janvier au mois de décembre pour que cette vallée vive. Et donc tout ce qui rentre, eh bien on sait le garder, quoi. Voilà.
Jean-Baptiste Grison, est-ce que vous connaissez d'autres villages qui fonctionnent sur ce système ?
Il y a un certain nombre de villages très particuliers en France. Je pense en particulier à deux communes. Il y a celle de Teuville dans le Val d'Oise au nord de l'Île-de-France et celle d'Épinay-Champlâtreux dans le Val d'Oise également, qui sont des communes où le maire historique, qui n'est plus forcément le maire aujourd'hui, mais est propriétaire de presque tout le foncier communal. Ce qui est différent par rapport à Pennes-le-Sec, c'est que dans ces deux villages-là, le maire est issu de l'aristocratie locale et que ce sont des propriétés très anciennes qui ont conduit à l'état actuel.
Ce que vous dites, c'est que finalement, c'est un système assez féodal ?
Il y a effectivement une part de féodalité qui est d'autant plus flagrante dans la mesure où les premiers habitants du village dans sa forme actuelle, hein, les premiers locataires de Charles Piau étaient également ses employés. C'est un système qui est un peu féodal dans ce sens-là où le propriétaire foncier, le propriétaire politique, le détenteur de la fonction politique et l'employeur, le principal acteur économique, sont regroupés dans la même personne.
Monsieur Catil, si par exemple vous devriez décrire à quelqu'un qui n'a jamais été à Pennes-le-Sec.
Oh là là, qu'est-ce qu'il faut dire ?
Qu'est-ce que vous pourriez.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut qu'il le comprenne. En plus, ce ne serait pas évident. Parce que c'est qu'un truc est quand même exceptionnel. Le père Piau, il arrive là-haut, dans la nature. Il n'y avait même pas des routes, il y avait qu'un mauvais chemin. Il n'y avait pas de chemin pour aller.
C'est lui qui a construit la route qui mène à Pennes-le-Sec.
Oui, enfin, il s'est démerdé à faire construire la route. Hein.
Vous avez été fermier pendant une trentaine d'années à Pennes-le-Sec. Hein.
Peut-être, je ne sais pas. Vous en savez des choses. Comment c'est... vous le savez ? J'étais c'est... tout petit à l'époque, alors.
C'est vous qui me l'avez dit.
Ah bon ?
Ah oui.
Si je l'ai dit, c'est peut-être pas vrai. Non, mais je pense que c'est vrai.
Vous aviez de bonnes relations avec Monsieur Piau, c'est ce que
des
vous...
relations, de très bonnes relations. Oui. Après, c'est surtout un problème des enfants. Il fallait trouver une. C'est pour ça qu'on les descendu ici, d'ailleurs. Il tenait, ça ressemble à un village normal, quoi, qu'il y ait des pompiers, qu'il y ait des gendarmes, j'en sais rien. Enfin, les gendarmes, ils étaient là, vu que ça fout. Mais bref, il voulait puis qu'il y ait une famille, et il voulait surtout qu'il y ait des enfants pour tenir l'école, ça, il y tenait.
À sa mort à Monsieur Piau, c'est sa préférée, Madame Giroux, qui a repris
oui,
le village.
Oui, c'est très triste, Madame Giroux. Je dirais comme un bien personnel, par contre. Alors, il était le village lui-même, c'est un village, hein, c'est pas une principauté.
On dit que c'est par amour pour Madame Giroux qu'il a construit ce village.
Oh non, ça n'a rien à voir, à mon avis. Oh là là, c'est pas le genre à Piau, ça. Non. Ah bon. Non, je sais pas. Je suppose que ça a été une raison aussi de placer du pognon sans qu'il paye d'impôts, je pense. Je pense qu'il y a une grande chose qui a joué là-dedans. Mais c'était un type, chaque fois qu'il venait, si tu as besoin de quelque chose, tu dis le mot. C'était pas mon genre, aller pleurnicher parce que je voulais, je sais pas, ceci ou cela. Jamais j'ai rien demandé, jamais.
C'est vrai qu'on trouve quand même beaucoup de ressemblances entre votre vie et celle de votre père.
Il est vrai que mon père ayant une personnalité très très forte m'a beaucoup marqué. Alors m'a marqué au niveau politique, m'a marqué au niveau des activités humaines et au niveau des activités professionnelles. Je vous fais remarquer une chose, mon père était un élu de gauche, il était SFIO, socialiste proche de Guy Mollet. Personnellement, je suis plus modéré. Je suis un centriste qui a rejoint l'UMP, alors que ma mère était gaulliste. C'est peut-être pour ça que je suis devenu centriste.
Mais enfin, c'est un village curieux, quand même. Elle me parlait de M. Giroud. Moi. Tu te rappelles de M. Giroud ?
Bon, oui, c'est Claude Giroud, oui.
Ah, Maître oui, Giroud. Hein, oui.
Maître Giroud, pas Claude Giroud, Maître Giroud. Tu le vexerais si tu le disais, monsieur.
Mais nous, nos bons souvenirs, c'est du temps de Perchal.
Les choses ont changé. Les choses ont changé. Alors que du temps de M. Piot, tout le monde était à la même échelle. On était tous salariés de M. Piot. Voilà, le restaurateur y compris. On était tous salariés.
Et pour quelle raison vous êtes parti ?
Eh bien, parce qu'on n'a pas eu, le fils n'a pas pu avoir un bail, donc comme il voulait s'installer, voilà, M. Claude Giroud n'a jamais voulu lui faire un bail, je pense. C'est pas qu'il ne pouvait pas, mais il n'a pas jugé utile qu'on lui fasse un bail.
Il a peur de se lier, peut-être.
Ben non, puisqu'après, il a fait des baux à ceux qui sont venus après.
À peine le sait que M. Claude Giroud semble vraiment être au cœur des discussions. Beaucoup de mystères planent autour de lui, comme des intrigues royales.
Ouais, c'est quelqu'un qui est au cœur du sujet. Ouais.
Et c'est quelqu'un aussi qui fonctionne avec ses habitants, j'ai l'impression, à l'affect. Enfin, je veux dire, c'est des relations...
C'est peine le sec. Je pense que M. Giroud, c'est... quand il est dans son village, c'est quelqu'un. Puis quand il est à Albins ou dans son milieu quotidien, c'est quelqu'un d'autre, je pense. Après, je pense que c'est quelqu'un de foncièrement gentil, mais avec son vécu. Donc, des hauts et des bas, on va dire, quoi.
Et l'histoire et le fonctionnement de ce village, est-ce qu'il vous pesait, à vous ?
J'ai trouvé souvent que ça prenait trop de place. Parce qu'au final, on est juste un petit village. Enfin, je veux dire, on n'est qu'un petit village dans le Haut-Diwa. Et de par cette histoire... ce tout petit village devient un village avec une grosse histoire. Et des fois, on aimerait mettre l'histoire de côté pour que les histoires se passent plus vite et que ce soit moins pesant.
À votre avis, que deviendra le village de Pelle-le-Sec à la mort de Claude Giroud ?
C'est une bonne question.
Je sais pas.
Alors moi, j'ai vraiment pas de réponse à apporter. Je n'en ai juste aucune idée.
Je sais pas. Alexandre, son fils, ne vient pas forcément ici. Après, ce sera à lui, je suppose, à décider.
J'espère que c'est un village qui sera mis entre bonnes mains. Je le souhaite, parce que c'est un village auquel on s'attache malgré tout, parce qu'on vit des choses fortes, automatiquement, humainement, puisqu'on est loin de tout le monde, on est loin de plein de choses, et des fois, on oublie un peu même la réalité de la vie, parce que quand tu quittes la ville...
Ça peut être un village qui meurt. Boum. Qui meurt, plus personne ne s'en occupe. Ça peut être un village fusionné. Dans ce cas-là, peut-être que d'autres s'en occuperont. Ça peut être aussi une nouvelle gouvernance au niveau de Pelle-le-Sec lui-même, qui fait que, je sais pas moi, il soit revitalisé, mais il faudra mettre beaucoup d'argent encore, il faudra communiquer pas mal, mais je vous dis, Pelle-le-Sec reste un village avec un caractère, avec très, très belle vue, très belle... Voilà, donc... moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je dis que, il continuera à se développer, et il y aura un peu plus de monde, et puis voilà.
Après, moi, aujourd'hui, je suis maintenant dans la vallée, et autant je ne regrette absolument pas cette vie à Pelle-le-Sec. Ça a été une très belle expérience humaine et sur plein d'autres points. Mais par contre, je suis très heureuse d'être de nouveau dans la civilisation, et parce que quand on est maman et qu'on a deux enfants, c'est quand même nettement plus pratique.
C'était Pelle-le-Sec, histoire d'un village privé, avec Claude Giroud, Antoine Colangelo, Daniel Fernandez, Jean-Baptiste Grison, Monsieur et Madame Catil, ainsi que Johan, Pauline, Joël, Peter, Gaël et Chloé. Attachée d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Productrice coordinatrice, Irène Omelianenko. Un documentaire de Lénora Krief et François Test pour Sur les Docks.